RFI, 9h à Paris, 8h à Tunis, 7h en temps universel.
RFI Matin.
Et le journal avec vous, Marion Kazanov. Les Tunisiens élisent aujourd'hui leur président dans un contexte économique morose.
La principale préoccupation des électeurs, le président sortant Kais Saied est donné grand favori dans un scrutin très verrouillé où trois candidats n'ont pas été autorisés à se présenter. Israël poursuit ses frappes au Liban, particulièrement violentes cette nuit dans la banlieue sud de Beyrouth. L'armée israélienne qui est en alerte à la veille du premier anniversaire des attaques terroristes perpétrées par le Hamas. En France, le Premier ministre prépare le budget 2025. Il le présentera jeudi en Conseil des ministres et le président, lui, a bien fait comprendre qu'il ne voulait pas s'en mêler. Et puis, pour prendre moins l'avion, manger moins de viande, bref, pour aiguiser notre conscience écolo, il faut que les célébrités et les dirigeants politiques nous montrent un peu plus l'exemple. C'est la conclusion de deux études scientifiques. On en parle à la fin de ce journal.
10 millions d'électeurs appelés aux urnes en Tunisie pour la présidentielle.
Le président sortant Kais Saied est donné favori. Il sera opposé à deux candidats, Zouhair Marzaoui, ancien député de sensibilité panarabe, et Ayachi Zamel, un homme d'affaires actuellement en prison. Trois autres candidats n'ont pas été autorisés à se présenter. Pour l'instant, il n'y a pas de date pour un éventuel second tour. On retrouve à Tunis notre correspondante Amira Souilem. Vous êtes devant une école de la Marsa, Amira, dans la banlieue de la capitale, et les bureaux de vote doivent ouvrir à l'heure où l'on se parle.
Alors absolument, j'ai été la première à pénétrer dans ce bureau de vote où j'ai pu voir autour de moi assesseurs et militaires s'affairer pour accueillir les premiers électeurs. Et d'ailleurs, là, au moment même où je vous parle, il est tout juste 8h et je vois les premières grappes de citoyens qui viennent d'entrer à l'instant dans ce bureau de vote. Alors, ici, dans ce bureau de vote, vous savez, on n'a même pas pris la peine de coller les affiches des candidats. Les emplacements sont restés vides. Et ça en dit long sur l'état d'esprit qui règne ici et qui est vraiment inhabituel en Tunisie post-révolutionnaire où d'habitude, une ambiance joyeuse, voire de fête, prévaut les jours d'élection.
Et alors, Amira, quels sont les enjeux de cette présidentielle tunisienne ?
Alors, malgré tout ça, la participation sera scrutée de près. Malgré tout, comme je vous le disais, on sent un très grand désintérêt pour ce scrutin chez les Tunisiens, presque du fatalisme, hein, pour les raisons qu'on a énoncées pendant tous ces jours qui ont précédé l'élection. Vous l'avez dit, plusieurs candidats n'ont pas pu se présenter. Il y a une impression que les jeux sont déjà faits en Tunisie. Et en même temps, il y a une partie de l'opposition qui a appelé, malgré tout, dans une espèce d'énergie du désespoir, à aller voter en masse pour, je cite, « court-circuiter le système ». C'est donc ce qu'on va scruter toute la journée, la participation.
Amira Souilem en direct de Tunis pour RFI.
La banlieue sud de Beyrouth, cette nuit encore, sous le feu des raids israéliens.
L'armée israélienne a mené de nouveaux bombardements dans des quartiers de la capitale libanaise, connus pour être des fiefs du Hezbollah. Bombardements particulièrement intenses cette nuit. Le mouvement pro-iranien, de son côté, affirme avoir repoussé des tentatives d'incursion israélienne à la frontière. La défense civile de Gaza signale aussi des frappes dans l'enclave palestinienne. Ce matin, elle déplore au moins 21 morts dans un bombardement israélien sur une mosquée dans le centre. L'armée israélienne serait aussi bien engagée à Jabalia, dans le nord. Elle dit avoir encerclé la ville. Des raids donc au Liban, à Gaza, également régulièrement en Cisjordanie occupée. Les Palestiniens restent sous le choc après une frappe particulièrement meurtrière dans un camp de réfugiés de Tul Karem qui a fait 18 morts dans la nuit de jeudi à vendredi. Nos envoyés spéciaux, Oriane Verdier et Nicolas Benita, se sont rendus sur place.
D'un côté, un tas de décombres. De l'autre, ce qu'il reste de l'immeuble de 3 étages traversé par plusieurs missiles israéliens. Au milieu, un groupe de femmes vêtues de noir traverse la scène. Khadija a les larmes aux yeux.
Il y a 2 jours, nous avons perdu un fils. Il avait 18 ans. Il était passé au café après avoir célébré l'anniversaire d'un ami. Il était heureux et quelques minutes plus tard, il est mort. Nous avons simplement entendu une explosion dans le camp. Les gens ont commencé à crier en allant vers la fumée blanche, à chercher dans les décombres, et quelqu'un nous a dit que Rakam était là. Ils ont rapporté une partie de son corps, il n'avait plus de bras ni de jambes.
L'immeuble touché par la frappe aérienne n'est pas la seule ruine dans ce camp de réfugiés palestiniens devenu petite ville. Autour de Khadija, une maison sur deux à la façade arrachée.
J'espère que les gens à l'étranger voient ce qu'il se passe à Gaza et en Palestine. Les gens dans les camps qui souffrent. Ils détruisent tout, il n'y a plus ni eau ni électricité. Nos enfants sont malades. Ils font tout pour nous faire quitter le camp.
Depuis le 7 octobre, l'armée israélienne a mené de nombreux raids sur les camps de réfugiés de Palestiniens en Cisjordanie. Elle affirme lutter contre les mouvements islamistes palestiniens, mais détruit également les infrastructures et fait de nombreuses victimes civiles. Nicolas Benita, Oriane Verdier, Toulkarem, RFI.
L'armée israélienne en alerte à la veille du premier anniversaire des attaques terroristes du Hamas en Israël.
Cette série d'attaques a fait 1189 morts dans le pays. Le 7 octobre dernier, le Hamas avait aussi enlevé 251 otages. Israël réplique depuis lourdement avec des frappes sur Gaza qui ont fait près de 42 000 morts selon le ministère de la Santé du Hamas. Un bain de sang que jusqu'ici la communauté internationale n'arrive pas à arrêter ni même à faire entrer en vigueur une trêve. Pour l'ancien premier ministre israélien Ehud Barak, le Hamas est entièrement responsable des massacres du 7 octobre. Mais le premier ministre actuel, Benjamin Netanyahou, a activement participé au développement du Hamas dans l'enclave.
C'est un échec de nos services de renseignement. C'est un échec de nos forces de défense et il est certain que c'est un échec stratégique majeur et un échec du leadership au niveau gouvernemental. Nous devons nous assurer, Israël doit s'assurer que le Hamas ne régnera plus sur Gaza et ne nous menacera plus jamais. À l'époque, Netanyahou a senti qu'il y avait un intérêt avec le Hamas. Et il l'a même déclaré. Quiconque souhaite bloquer l'émergence d'un État palestinien doit soutenir ma politique de renforcement du Hamas et d'affaiblissement de l'autorité palestinienne. Et il était prêt à aller très loin. Il a encouragé les Qatariens à transférer 1,5 milliard de dollars au Hamas durant 5 ans.
Les Qataris to pay 1.5 million dollars over 5 years.
L'ancien premier ministre israélien Ehud Barak au micro de Sami Bourlifa. Des milliers d'Israéliens ont manifesté hier encore pour la libération des otages. Aujourd'hui, une cérémonie à Tel Aviv rendra hommage aux victimes de l'attaque du festival de musique Nova lors du 7 octobre.
La situation au Proche-Orient a été largement abordée au sommet de la francophonie.
Sommet qui s'est achevé hier à Paris. Les 88 membres de l'organisation ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et durable au Liban. Plus tard, le président français a suscité la colère du Premier ministre israélien. Emmanuel Macron a appelé à arrêter certaines livraisons d'armes à Israël, à savoir les armes qui servent à Gaza. Honte, a répondu Benjamin Netanyahou.
Emmanuel Macron très actif sur le plan international et plus en retrait désormais en ce qui concerne les affaires intérieures.
Le projet de budget sera présenté jeudi en Conseil des ministres par son Premier ministre Michel Barnier. Le président n'aime d'ailleurs pas aborder le sujet. Le budget 2025 est censé stopper en partie, du moins, le creusement des déficits publics, Valérie Gasse.
Une dette colossale, c'est ce que Michel Barnier dit avoir trouvé en arrivant à Matignon, le Premier ministre qui à plusieurs reprises a mis en cause le bilan financier du précédent gouvernement. Alors, c'est avec une pointe d'exaspération dans la voix qu'Emmanuel Macron a répondu à une question sur sa responsabilité dans l'augmentation des déficits.
Là où je suis, je veille à l'indépendance et la stabilité du pays. Je le fais depuis 7 ans à travers les crises et n'oublions pas tout ce que nous avons fait pendant ces crises. Je vois d'aucuns qui disait qu'on faisait trop peu, nous reprocher aujourd'hui peut-être d'avoir fait trop tout court. J'essaie d'être cohérent.
Pas facile de rester dans son rôle de président qui laisse le Premier ministre gouverner quand la politique menée depuis 7 ans est attaquée. Alors Emmanuel Macron renvoie chacun à ses responsabilités dans le moment présent.
Il appartient au Premier ministre de mener les affaires de son gouvernement et de le faire en dialogue avec les groupes parlementaires où il me semble qu'il y a des responsables avec lesquels il doit construire la solution et qui ont une vision assez claire de la gestion et des affaires publiques et du budget de ces derniers mois et de ces dernières années.
Autrement dit, Michel Barnier doit négocier avec Gabriel Attal ou Gérald Darmanin, les anciens ministres aujourd'hui députés du principal groupe du socle parlementaire du Premier ministre qui conteste ses choix budgétaires.
Michel Barnier n'oublie donc pas ses nouvelles fonctions stratégiques des anciens ministres Gabriel Attal et Gérald Darmanin. Il tente donc d'apaiser les tensions en ce moment. Dans une interview à la Tribune dimanche, Michel Barnier dit avoir besoin de tout le monde. Il a ménagé son prédécesseur Gabriel Attal et donc le camp présidentiel. La dette actuelle est le fruit de 20 ans de laisser-aller. Elle n'est donc pas seulement due à l'ancien gouvernement, selon lui. Au Brésil, un test important pour le président socialiste Lula, avec aujourd'hui les élections municipales, 2 ans avant la présidentielle et les législatives. À Rimlipold, ce scrutin pourrait être marqué par la poussée du discours anti-système ou encore des évangéliques.
Il y a 4 ans, le parti Parti des travailleurs du président Lula a perdu la moitié des mairies qu'il détenait. Un revers électoral que la gauche brésilienne tente de corriger en s'appuyant sur la notoriété de son président. Mais le PT fait face à une armée de candidats du parti PL de l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro. Déclaré inéligible par la justice pour avoir mis en doute la fiabilité du système électoral, il tente de poursuivre l'implantation locale de son parti. Seulement voilà, il est concurrencé par un outsider devenu la coqueluche de l'électorat bolsonariste Pablo Marçal, un richissime coach qui se présente à la mairie de Sao Paulo. Avec des phrases choc et des vidéos virales, cet influenceur d'extrême droite ne cesse de grimper dans les sondages, ce qui montre qu'au Brésil, le discours extrémiste a gardé son pouvoir de séduction. Autre tendance à observer, la montée des évangéliques. Le Parlement de Manaus pourrait être la première assemblée du Brésil composée uniquement de députés appartenant à ce courant chrétien.
Arim Lipold, au Kazakhstan, un référendum organisé aujourd'hui pour construire ou non une première centrale nucléaire. La population est consultée car le sujet est douloureux dans cette ancienne république soviétique. L'URSS y avait mené des centaines d'essais nucléaires exposant aux radiations plus d'un million de personnes. La Russie, la Chine, la France et la Corée du Sud sont candidates pour construire cette éventuelle centrale. Les allers-retours en jet privé de Taylor Swift, les vacances de Leonardo DiCaprio à bord de yacht rutilant, les exemples sont nombreux pour pointer le manque de conscience écolo des célébrités. Et pourtant, leurs efforts pourraient changer les choses, inspirer monsieur et madame tout le monde. Deux études scientifiques récentes estiment en tout cas que le changement de comportement des dirigeants politiques et des stars est un chaînon manquant crucial pour permettre une véritable transition écologique. Lucille Gimbert.
Pour le moment, nous sommes dans une impasse. Les politiciens craignent un retour de bâton s'ils demandent aux populations de modifier leur comportement et les citoyens sont réticents à changer leurs habitudes tant que leurs dirigeants ne le font pas eux-mêmes. On pourrait se regarder longtemps comme ça, en chien de faïence. Pourtant, les scientifiques sont formels. Une bonne partie de l'effort à venir pour réduire nos émissions de carbone responsables du réchauffement mondial va passer par une transformation de nos modes de vie, en particulier en Occident. Manger moins de viande, prendre moins l'avion, réduire la voiture thermique. Et si les leaders politiques et les célébrités mettaient le pied à l'étrier et le faisaient savoir, les gens, comme vous et moi, nous serions plus disposés à enclencher nos propres changements. C'est ce que montre une étude publiée dans Nature. Une autre, reprise par Science, nous dit-elle que nombre de députés britanniques font déjà des efforts, mais discrètement, trop peur d'être taxés de monsieur ou madame vertu ou de braquer certains électeurs et secteurs économiques. Pourtant, les scientifiques le démontrent, si les leaders d'opinion le font, ils seront perçus comme plus compétents, plus efficaces et plus attentionnés.
Et des classements pointent souvent le désastreux bilan carbone des célébrités. Taylor Swift se retrouve bien souvent en tête, avec également le boxeur Floyd Mayweather, l'homme d'affaires Elon Musk ou encore l'influenceuse Kim Kardashian.
Merci Marion Cazeneuve, votre bilan carbone est bien meilleur. Bonne journée à vous. RFI Matin, troisième et dernière heure. Dans un peu plus d'un quart d'heure, le journal Afrique et le Burkina Faso, notamment à la une. Hier, le capitaine Ibrahim Traoré était devant les auditeurs de la radio publique. Il est revenu notamment sur la tentative alléguée de déstabilisation de son régime. On en parlera tout à l'heure. À suivre d'ici là notamment notre reportage culture et une jolie idée au musée du Quai Branly à Paris. Une bande-son pour accompagner les visiteurs. Mais tout de suite, la revue de presse. Avec vous, Catherine Potet, le tour des hebdomadaires français, comme chaque dimanche et à la une, les massacres du 7 octobre, un an après.
C'était il y a un an, c'était il y a un siècle, remarque le Nouvel Obs. Un an après le massacre commis sur le sol israélien par des commandos du Hamas, la terrible riposte de l'État hébreu contre la bande de Gaza et désormais contre le Hezbollah au Liban a pris l'allure d'une fuite en avant militaire, sourde à tous les appels au cessez-le-feu, résume l'hebdomadaire. Un an plus tard, chacun réalise à quel point cet événement a un impact profond dont on n'a pas fini de mesurer l'étendue. D'abord, le 7 octobre, ce jour-là, raconte le Nouvel Obs, Abigail était au festival Nova. Cette jeune femme a survécu, cachée dans une voiture sous les corps de deux amis morts. « J'aurais dû mourir au moins trois fois », dit-elle, « mais je suis toujours là. La question, c'est pourquoi, se demande celle qui se dit aussi morte à l'intérieur. Les Israéliens sont traumatisés alors qu'une centaine d'otages sont toujours aux mains du Hamas, explique Le Point. Le pays tente de se reconstruire psychologiquement. Notre pronostic vital est engagé, s'emporte l'écrivaine israélienne Zeruya Shalev. Aujourd'hui, alors que presque une année s'est écoulée, me voilà avec autant de douleur que de rage à mettre des mots sur des choses que jamais je n'aurais pu imaginer. Jamais je n'aurais pu imaginer que cette incurie criminelle durerait encore, qu'au bout d'un an il y aurait encore des otages à Gaza, que cette guerre se poursuivrait encore sans qu'aucun horizon politique se dessine dans le sud et dans le nord.
Et dans ces propos, Catherine, on entend bien sûr la dénonciation de la politique menée par Benjamin Netanyahou.
Dénonciation que reprend à son compte Yair Golan, général de réserve et chef de la gauche israélienne. Netanyahou n'a pas de stratégie, dit-il Au Point. À la question « Le Premier ministre peut-il sacrifier la vie d'Israéliens, de soldats, dans le seul but de rester au pouvoir ?» Il répond « Sans équivoque, il s'en fiche. S'il meurt, il meurt. » Et les otages ? J'affirme qu'il y a au moins 3 possibilités d'obtenir un accord sur la libération des otages en janvier, en mai et en juillet. Qui les a empêchés ? Netanyahou, il ne veut pas mettre fin au combat, cette situation lui convient. Yair Golan qui appelle au sursaut, nous devons manifester tous les jours, toute la journée. Nous devons assiéger la Knesset avec 500 000 de personnes. Nous devons expliquer à ce gouvernement que nous ne coopérerons pas avec lui.
Les hebdomadaires consacrent aussi cette semaine de nombreux articles à la situation à Gaza.
L'interminable calvaire des civils, titre Le Point. 1 900 000 Gazaouis habitent désormais des abris de fortune. Plus de 41 500 ont été tués selon le ministère de la Santé à Gaza. L'ONG Airwars, composée de journalistes et de chercheurs, explique que 67% des victimes qu'elle a identifiées sont des femmes et des enfants. Pourquoi la bataille de Gaza a-t-elle été si meurtrière, interroge Le Point. Parce que les militaires font peser le fardeau de la guerre sur les civils palestiniens, estime le sociologue Yagil Levy de l'Université ouverte d'Israël, qui s'explique « C'est un transfert de risque par les bombardements aériens pour épargner nos troupes ». Les civils paient donc le prix fort. Le Nouvel Obs a suivi l'évacuation d'une quarantaine d'enfants de l'enclave palestinienne vers les Émirats Arabes Unis. Les photos parlent d'elles-mêmes, celles d'un bébé malnutri, c'est le cas de presque tous les enfants présents sur ce vol humanitaire, nous dit-on. On voit aussi Hicham, 6 ans, dont le corps est criblé d'éclats d'obus, ou encore Sarah, piégée dans une maison en feu et n'ayant survécu que par miracle. La petite fille a le visage marqué de larges cicatrices.
En France, enfin, un an après le 7 octobre, les Juifs font part de leurs douleurs et de leurs blessures.
Douleur parce que les victimes françaises du Hamas ont été invisibilisées, dénonce Rachel Binas, journaliste à Marianne. Elle vient d'écrire un livre sur le sujet. Aujourd'hui encore, dit-elle, qui sait que 43 Français sont morts à la suite des massacres et que l'on compte encore 2 otages français que l'on espère vivants aux mains du Hamas. Cet événement tragique, ajoute-t-elle, aura surtout ouvert un débat un peu triste avec pour thématique « Ces Juifs partis en Israël sont-ils des nôtres ?» De son côté, l'Express fait sa une sur la flambée antisémite en France. Depuis un an, les attaques contre les Juifs français ont plus que doublé et atteint un niveau inédit, annonce l'hebdomadaire qui décrit ces petits gestes auxquels les membres de la communauté juive se résignent. Kippa cachée sous une casquette pseudo pour passer une commande livrée à domicile. Plus que jamais, ajoute l'Express, on prend l'habitude de ne pas s'attarder à la synagogue après l'office pour ne pas se rendre vulnérable.
Catherine Potet pour la revue de presse. Merci beaucoup. Bon dimanche à vous.
RFI à Paris, 89 FM.
L'actualité politique en France ce dimanche, des rassemblements aux airs de conspiration, des lancements de nouveaux courants, des appels à l'organisation urgente d'un congrès. Le Parti Socialiste anime la rentrée politique cet automne. Bonjour Aurélien de Vernois.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Sortie renforcée des législatives anticipées, le PS attise les convoitises et fait flamber les ambitions.
Il ne se quitte plus. Carole Delga, François Hollande, Bernard Cazeneuve, Raphaël Glucksmann, Karim Bouamran enchaînent les déjeuners et réunions publiques. Une fois Abraham, dans le fief de la présidente de la région Occitanie, une autre au stade Bauer, chez le maire de Saint-Ouen, ou encore à l'Aréole en Gironde pour les journées de rentrée de l'ex-tête de file PS Place Publique aux Européennes. Leur point commun, vouloir remettre la social-démocratie au centre de la stratégie du parti à la rose. Et pourquoi pas, envisage l'un d'entre eux, créer un grand mouvement commun susceptible d'attirer les macronistes de gauche. Mais pour réussir, tous sont d'accord sur la nécessité d'une prise de distance avec LFI, prenant comme modèle celle du PS avec le Parti communiste à la fin des années 70, qui avait finalement abouti à la victoire de François Mitterrand à l'élection présidentielle de 81.
Mais il y a pour l'instant un obstacle, c'est l'actuel patron du PS, Olivier Faure.
Insoumis aux insoumis, à la botte de Jean-Luc Mélenchon, peste les antifores. Mais le premier secrétaire a pour lui son bilan de l'année 2024, presque 14% aux européennes, avant de doubler le nombre de députés PS à l'Assemblée grâce au nouveau Front Populaire. Les conspirateurs doivent donc être malins pour s'en débarrasser. Pas question de faire campagne sur une sortie de l'Union des Gauches, qu'ils n'avaient pourtant pas souhaité. Compliqué aussi de convaincre les militants de se rallier à des courants qui ont passé leur temps à vilipender la stratégie de la direction. Il ne faut surtout pas un congrès contrefort, estime l'un des cerveaux du putsch qui pousse pour un candidat consensuel.
Et ça tombe bien, Aurélien, il pourrait y en avoir un.
J'ai nommé Boris Vallaud, l'actuel président du groupe socialiste à l'Assemblée. Il a pour lui d'avoir toujours suivi la ligne de la direction tout en affichant une certaine indépendance. Et il affiche désormais ses ambitions après avoir longuement tergiversé. Il publie un livre cette semaine dans lequel il plaide pour une nouvelle voie. Seul souci, lesdites ambitions risquent de ne pas s'arrêter au PS. Et ça, ça risque d'être un gros problème, car la présidentielle 2027, c'est de ça qu'on parle, c'est aussi l'objectif des Delga, Glucksmann, Cazeneuve, Boimran, voire même Hollande. Résultat, et comme le slogan le dit, cela risque d'être plus chaud que le climat.
Aurélien de Vernois, pour l'actualité politique, merci beaucoup.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
Une poète, romancière et peintre, Véronique Tadjo, a une vingtaine de titres à son actif et elle est à l'honneur ce dimanche dans Chemin d'écriture à l'occasion de la sortie cet automne de son nouveau roman Je remercie la nuit. Bonjour Tirtan Karchanda.
Bonjour Julien Coquel-Joem.
C'est une grande dame des lettres africaines qui est au programme de votre chronique ce dimanche.
Avec une œuvre composée de romans, poésies, livres pour la jeunesse, la franco-ivoirienne Véronique Tadjo est en effet une auteure majeure de la littérature postcoloniale de langue française. Son nouveau roman est campé en pleine crise post-électorale qui a marqué l'histoire récente de la Côte d'Ivoire et dont l'impact perdure dans l'inconscient collectif. Véronique Tadjo.
C'est un moment qui a été très important puisque on a assisté à un effondrement total du processus démocratique. Dans ce livre, j'ai essayé de montrer comment cette crise-là a eu un impact direct sur des gens.
Que raconte ce roman, Tirtankar ?
Il raconte l'histoire d'une amitié singulière entre deux jeunes filles dont la guerre civile fait basculer la vie dans le chaos. Flora et Yasmina, âgées d'une vingtaine d'années, sont étudiantes à l'université de Cocody, à Abidjan, quand la crise politique éclate. Les deux filles s'entendent à merveille, malgré leurs différences sociales et politiques. Mais la rentrée universitaire 2010, sur laquelle s'ouvre ce roman, se révèle être la rentrée de tous les dangers, avec l'éclatement de violences jusque dans leur campus universitaire. Cette guerre fratricide aura pour conséquence de séparer les deux amis et de les transformer à tout jamais. Véronique Tadjo.
J'ai voulu avoir deux personnages qui, sans être des révolutionnaires, elles ont quand même cette volonté de faire entendre leur voix. Et il ne faut pas oublier que ce sont des jeunes. Elles ont une grosse dose de naïveté. Une naïveté qui, en même temps, est ce qui les qualifie et les rend beaucoup plus prêtes à voir l'autre côté des choses.
Et Tirtankar, qu'est-ce qui fait l'originalité de ce roman ?
Il me semble que cette originalité est à chercher moins dans sa structure narrative que dans son écriture. Je remercie la nuit s'inscrit dans l'écriture sophistiquée de Véronique Tadjo, mêlant analyse fine et métaphore de la condition humaine. dans la deuxième partie du roman, qui se déroule à Johannesburg, en Afrique du Sud, où Flora se réfugie. La métaphore dominante est celle de la peinture que pratique Zolile, l'amoureux sud-africain de la jeune femme. Pour le sud-africain, l'art est un répit, une poussière d'humanité, une note de jazz, une déclaration d'amour, selon les mots de Véronique Tadjo. Des qualificatifs qu'on pourrait appliquer au nouveau récit de cette dernière, qui est lui aussi une déclaration d'amour à la Côte d'Ivoire, voire une invitation à surmonter ces mots. Véronique Tadjo.
Je sais qu'un livre ou un recueil de poèmes ne peut pas tout changer, ne peut pas faire la révolution, mais elle permet de continuer à réfléchir sur des événements ou des sentiments ou des émotions qui continuent à nous toucher. On n'a pas encore évacué toutes les peurs et les douleurs qu'on a eues au moment de la crise post-électorale de 2010-2011.
Premier ouvrage de fiction sur la crise post-électorale, le roman de Véronique Tadjo est aussi une invitation à d'autres romanciers à s'emparer à bras-le-corps de ce sujet. Aussi, ne s'étonnera-t-on pas de l'absence du point final à la fin du récit. Ce n'est sans doute pas un oubli.
Je remercie La Nuit par Véronique Tadjo, publié aux éditions Mémoires d'Encrier et dans Chemin d'écriture sur RFI. Merci Tirtan Karchanda.
C'est moi qui vous remercie.
RFI bientôt 7h30. En temps universel, avant le journal Afrique, notre reportage culture. À Paris, aujourd'hui, au musée du Quai Branly Jacques Chirac, qui donne une nouvelle vie à ses collections, le musée vient de leur créer leur propre bande-son. Des musiques, des poèmes, des chants, des prières, des bruits urbains, des ambiances naturelles. Quelques 150 éléments sonores en tout pour rythmer le parcours à travers les arts et les civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques. Visite guidée et sonore avec Carmen Lunsman.
Entendre le vent glacial souffler au Grand Nord, suivre une cérémonie religieuse en Éthiopie, ou écouter le chant mystique d'un vase siffleur et d'autres flûtes préhispaniques. Au Quai Branly, les espaces et les objets des collections permanentes reprennent vie à travers une dimension sonore inédite. Éric Duvichère, commissaire de ce nouveau parcours sonore du musée.
Bien sûr, il y a déjà eu du son dans des expositions et dans certains musées, mais jamais à ce niveau-là, c'est-à-dire créer non seulement des choses très localisées, très liées à certains objets, faire entendre un instrument de musique par exemple, mais aussi des ambiances, des contextualisations. Par exemple, un ensemble d'objets liés à la pêche avec une très belle pirogue des îles Salomon. Nous avons enrichi cette présentation non seulement de sons environnementaux, des sons d'eau, etc., mais aussi des chants de pagayeurs. Donc il y a un pouvoir évocateur du son qui est très fort. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi montrer une vidéo, et ça on les a déjà vus des centaines de fois, mais le faire par le son, ça ouvre aussi un espace imaginaire qui est assez intéressant à explorer.
La palette est large et part d'enregistrements de terrain pris lors de missions ethnologiques des années 1960 jusqu'aux sons contemporains enregistrés ou même composés en 2024. Pour créer ce voyage onirique en mille et un sons à travers les continents, il a fallu 4 ans de travail, 3 designers de son, des ingénieurs, compositeurs et collecteurs de sons.
Il y a des sons que nous avons nous-mêmes découverts dans nos recherches. Par exemple, ce chant des dunes, issu du désert saharien, qui est en fait un phénomène physique de frottement des grains de sable. Lorsqu'il y a certains glissements de terrain, ça peut être provoqué par le vent ou par des pas. Et ça produit une sorte de vrombissement tout à fait étonnant.
Afin de faire chanter et résonner tous ces phénomènes sonores et ne pas noyer le public dans un brouhaha monstrueux, Éric Duvichère et son équipe se servent de plusieurs stratagèmes. Ils installent des déclencheurs, jouent sur les niveaux sonores, font passer des séquences dans un ordre aléatoire, laissent même place au silence et disposent des haut-parleurs à hauteur d'oreille ou même à l'intérieur d'une banquette où l'on peut vibrer au son d'un didgeridoo face aux œuvres murales d'Australie. Tout est fait pour créer des liens sensoriels sans avoir recours au casque ou audiophone. L'idée est tout simplement de créer une expérience collective et de prendre le temps d'écouter pour mieux voir et comprendre.
Carmen Lunsman au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris et cette bande sonore du musée à découvrir dès maintenant. Bientôt 7h30 en temps universel.
TV5 Monde Plus, c'est la première plateforme francophone mondiale. Films, séries, documentaires, culture, jeunesse. À l'occasion du sommet de la francophonie, découvrez nos sélections et nos coups de cœur venus des quatre coins de la planète. Partout, tout le temps, gratuitement. Rendez-vous sur l'application et le site tv5mondeplus.com.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Un an après l'attaque sans précédent du Hamas sur le territoire israélien, nous répondons à vos questions sur la situation au Proche-Orient, les bombardements sur Gaza et ses conséquences humanitaires, le sort des otages, l'extension régionale du conflit, Liban, Iran, Yémen.
Appel sur l'actualité, 33 9 693 693 70.
Juan Gomez, avec vous au téléphone lundi à partir de 8h10 TU.
RFI.